Chapitre 7 Une nuit de terreur. Le souffle s'arrêta sur les lèvres de Gabriel. Klimt s'appuya sa tête sur la rampe du balcon et à travers le réseau des fleurs, il suivit la direction donnée par le signe de Gabriel. Sur un coin des bordures ténébreuses du lac et à la lueur rapide d'un éclair, on vit se détacher un profil humain dans un fond lumineux. En Europe et dans nos campagnes, presque peuplées comme les villes, une semblable apparition n'exciterait aucune défiance. Mais sur un point reculé de la province de Madras, à cette époque de la colonisation, la présence d'un être humain à minuit dans un désert était effrayante. L'habitation n'avait pourtant rien à redouter d'un ennemi isolé. Elle était même défendue contre les attaques des hommes et des animaux. Sa seule porte roulait son bois de fer à triple couche sur des gonds de bronze comme la porte d'une pagode. Les légères persiennes des croisées inférieures cachaient des panneaux de métal semés de clous comme les comptoirs des banquiers à la cité de Londres. Ce système de fortifications domestiques suffisait pour décourager les Indiens marrons et les péons infidèles. Au reste, aux heures du milieu de la nuit, personne n'osait s'aventurer autour de l'habitation. Souvent les tigres, attirés par l'odeur des chevaux et des bœufs, venaient bondir sous les étables et disparaissaient comme des oiseaux de proie, devant l'immobilité menaçante des portes qui semblaient les regarder avec leurs soupiraux roses et illuminés. Les tigres noirs, plus hardis que les autres, s'accroupissaient quelquefois comme des sphinx sur les marbres de la terrasse et promenaient autour d'eux des regards tranquilles et insolents comme si pendant la nuit l'univers leur appartenait. Ces monstres sont les plus effrayants que l'Asie ait inventés. Ils regardent l'homme avec une attention étrange et attachent sur sa face leurs grands yeux dont les orbes sont d'ébène avec un cercle de vif argent. Klimt se recula dans la chambre sur la pointe des pieds, ouvrit doucement sa boîte à pistolet et revint armé des deux mains reprendre sa place au kiosque après avoir éteint la lampe. À chaque rayonnement de l'éclair, la sombre et mobile silhouette se dessinait toujours par-dessus les masses ténébreuses et dans ce moment, rapide comme la pensée, on pouvait même voir s'agiter des boucles de cheveux sur le front du fantôme du lac. Klimt mit ses lèvres sur l'oreille de Gabriel et lui dit d'une voix si basse qu'elle était presque le silence « Un ami ne vient pas, tête nue, dans une nuit d'orage, dans une ménagerie de tigres, prendre cette position au bord du lac. »« C'est juste, » dit Gabriel sur le même ton. « Donc c'est un ennemi, » dit Klimt. « Il y a 50 pas à peu près d'ici au lac, qu'en pensez-vous ?»« Oui, à peu près. Mais je vais les mesurer avec une balle. »« Attendez, Klimt, j'entends du bruit dans l'allée de la ferme. Les feuilles sèches remuent. »« C'est ce pauvre Soura qui a peur de l'orage et vient demander asile. »« Ce chien est intelligent, il a flairé quelque chose dans l'air. » Il s'arrête, il allonge son museau vers le lac, il se rapetisse et marche à plat ventre du côté de l'apparition. Klimt, le pistolet tendu, pressa la détente au premier éclair. Le coup de feu retentit comme un éclat de tonnerre dans cette solitude aux mille échos, puis un silence de mort retomba sur les rives du lac. « Voilà un horrible mystère, » dit Gabriel. Soura n'a pas aboyé. Oh, dit Klimt, maintenant que le fantôme est tué, descendons et allons le chasser. Je n'ai jamais vu le fantôme indien. Mais comment savez-vous qu'il est tué? Dit Gabriel. N'ai-je pas tiré sur lui? Oui. Eh bien, il est mort. C'est ce chien, mais ce chien qui n'a pas aboyé, qui s'est avancé vers l'apparition et qui ne revient pas. Soura, Soura, Soura. Ben, je vais l'appeler, moi, vous allez le voir accourir. Il faut prendre la voix du bonze enrhumé. Soura, Soura, Soura. Il y a là-bas un écho qui ne dort pas et qui m'imite parfaitement. Soura, Soura. Oh, je suis têtu comme un Anglais. Je veux que Soura vienne. Quel diable de nom ces hindous donnent à leur chien. Descendons. Avant, je vais recharger mon pistolet. Prenez vos armes aussi, Gabriel. Je vous remercie de m'avoir rappelé le Trangbar. J'adore ces aventures. Voilà la vie. Comprenez-vous les gens qui croient qu'on ne peut exister que sur un monceau de boue et trempé à la pluie, qu'on appelle une capitale du nord de l'Europe? Descendons. Clerps, Clerps, dit Gabriel, qui n'avait pas quitté le kiosque. Mon ami, nous avons fait une sottise. Nous nous sommes oubliés. J'entends du bruit dans les chambres. Votre impudent coup de pistolet a réveillé tout le monde. Eh bien, ils se rendormiront. En effet, des bruits de pas et des grincements de croisées se faisaient entendre sur la façade opposée du lac. Gabriel montrait du doigt à Clerps la mobile clarté des lampes rallumées qui se reflétaient sur les coupoles noires de la forêt voisine. Au nom de Dieu, dit Gabriel, ne frayons pas Eva. Elle partirait pour Madras et adieu mes amours. Bon, je me charge de lui faire un conte. Vous ne parlez pas. Vous gâtez tout avec vos distractions d'écolier amoureux. Chut, dit Gabriel. On frappe à la porte de notre chambre. Ouvrons, dit Clerps tranquillement. La porte ouverte, Talaï Perry entra. Son visage était d'une pâleur horrible malgré sa teinte bronzée. Il avait dans la voix une telle émotion que les deux amis ne comprirent pas d'abord ce qu'il venait leur dire. Ce ne fut qu'à la seconde explication que Gabriel devina que la belle veuve les invitait à descendre chez elle, à l'étage inférieur. Cléops et Gabriel obéirent avec empressement. Ils franchirent l'escalier d'un bond, et on les introduisit dans une magnifique chambre où jamais les pas d'un homme n'avaient pénétré depuis la veille de la chasse au tigre. Eva était assise sur un lit de repos dans un négligé adorable. Elle avait revêtu à la hâte le sari des grandes dames indiennes et noué à son cou un châle chinois peint et léger comme des ailes de papillon. Ses pieds jouaient dans le velours de la sandale des odalisques, et les boucles de ses cheveux, ramenées confusément en arrière par des nœuds de crêpes et de rubans, laissaient, dans un découvert admirable, les tempes et le front. Une large et vive flamme, hérissée comme une boucle de cheveux d'or sur la coquille d'un candélabre, éclairait le milieu de la salle et laissait dans une ombre douce et mystérieuse les tentures, les meubles, les ornements. On ne distinguait que deux tableaux de couleurs brillantes et pailletées, brodés plutôt que peints par des artistes indiens. L'un représentait la houri céleste montée sur un chameau fantasque qui avait des visages de femmes à chaque genou, et l'autre représentait le sourire, le soleil et son conducteur, Aruna, dirigeant le char lumineux que traînait un cheval à sept têtes. Un parfum suave, comme celui que Ceylan envoie au Coromandel le soir quand il ouvre l'écrin de ses coquillages, un parfum de gynécée indien, semblait s'exhaler de l'alcôve et embaumait le temple d'Eva. En entrant, Gabriel et Clerps furent tentés de s'agenouiller. Eva les ramena promptement à des idées terrestres en leur disant d'un ton aigre-doux: « Eh bien, messieurs, vous prenez midi pour minuit pour midi, mais que se passe-t-il donc chez moi? Faut-il rire? Faut-il s'alarmer? « Bon, ni l'un ni l'autre, madame, dit Clerps, j'ai tué un tigre sur les bords du lac. » Eva fit un mouvement de tête convulsif. « Un tigre, dit-elle. Ces monstres nous en veulent bien. Il y avait longtemps qu'ils avaient oublié le chemin de ma maison. Ces diables d'animaux comprennent que mon pauvre Samy n'est plus là pour leur ajuster une balle entre les yeux. Deux larmes brillèrent sur les joues d'Eva. Gabriel les sentit couler dans sa poitrine comme les laves du volcan de la jalousie. Madame, dit Klebs, je m'offre de grand cœur à remplacer votre mari, enfin, pour les tigres. Sir Edward, dit Eva d'un ton sec, non soupçonné jusqu'à ce moment, Sir Edward, il y a des choses sérieuses et des souvenirs qu'il faut respecter. Klerb s'inclina devant la belle veuve et protesta de son dévouement et de son affection en termes énergiques et graves. Ah, quelle horrible nuit, dit Eva. Mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas la force de m'arracher à cette maison? C'est qu'il y a partout ici, partout des souvenirs de lui. Pauvre Samy. Sir Edward, vous avez été bien étourdi, bien léger. À minuit, un coup de feu et sur un tigre, devant ma maison. J'ai cru, madame, qu'on devait tuer un de vos ennemis à toute heure et partout. Mais savez-vous bien, Sir Edward, que chaque nuit, à la même heure, mon sommeil se débat contre un rêve effroyable, un rêve infernal. C'est un val désert, plein de rugissements et de bruits de cataractes. C'est un fleuve ensanglanté qui roule des lambeaux d'étoffe d'or et des ossements rongés. C'est un horrible festin où le plus puissant des hommes dévore la chair des tigres et où les tigres dévorent ma chair. Et des cris prodigieux, comme des cavernes les pousseraient, donnent dans les solitudes. Et j'entends le râle d'agonie d'un géant écrasé sous un roc. Et je me réveille en sursaut dans des étreintes de bras d'airain et de larges griffes d'acier, avec des parfums de chair morte à mon chevet et des souffles rauques à mes oreilles. Voilà mes nuits. Pardonnez-moi la fausse gaieté de mes jours. Gabriel et Klerps, posés en statue, contemplaient Eva et gardaient un silence plein de pensées étranges. Eva tenait ses grands yeux ouverts et fixes, les bras étendus jusqu'aux genoux, le sein haletant, les lèvres convulsives, comme si elle revoyait encore le songe de ses nuits en se réveillant. Et elle parut faire un effort sur elle-même. Et se tournant vers les jeunes gens, elle dit: Mon beau-frère n'est pas entré avec vous, messieurs? Non, madame, répondit Cléops. Oh, ce beau Talaï périt. Il a cru que sa présence me gênerait. J'ai l'amour-propre de déguiser mes chagrins devant lui, je ne sais pas pourquoi. Sœur Édouard, ouvrez une croisée, l'air me manque. L'aube tardera-t-elle à poindre? La nuit est toujours bien noire, madame, toujours l'orage sans pluie. Oh oui, je le sens, cet orage, un ciel lourd. Il me semble que des nuages plombés passent sur mon front. Vous ne voyez rien au bord du lac? Non, rien que des éclairs dans le lointain des losanges de feu. Sir Edward, avez-vous entendu aboyer Soura quand vous avez tiré le tigre? Non, madame. Non, mais c'est singulier. Il sent le tigre d'une lieue. Et je ne l'ai pas entendu non plus, mon beau chien. Il passe la nuit à la ferme, peut-être. Sir Edward, dis à l'antichambre qu'on aille me chercher Soura. Oui, madame. Monsieur Gabriel, vous êtes bien taciturne. Eh, madame, je suis resté dans votre rêve. C'est que vous avez figuré noblement dans la réalité. Vous avez assisté à cette horrible scène du désert. Vous n'avez pas suivi les assassins et les lâches. Et ce qui est encore mieux, vous ne vous êtes vanté de rien, comme votre ami, ce noble anglais, qui est plus sérieux qu'il n'en a l'air. Je le connais. Mais nous n'avons fait que notre devoir, madame. Oh, le devoir est une chose facile que personne ne fait. Madame, dit Clerps en rentrant, votre chien n'est pas à la maison. Chétis, son gardien, ne l'a pas vu depuis hier au soir. Oh, cet y est un négligent qui m'a déjà perdu deux chiens. Je suis. Voulez-vous, madame, que j'aille voir à la ferme? Oh, serez-vous à cette heure? Et si quelqu'un de ces bons se rôde encore par là? Je le tuerai, madame, et je mettrai sa fourrure au pied de votre lit. Ce pauvre sourat, où il n'est pas chien, se laisser avaler par un tigre. Sœur Édouard, je suis désespéré de vous dire que je consens, mais je veux que vous soyez accompagné de votre ami. À ce dernier mot, Clerps et Gabriel avaient déjà disparu. Ils ouvrirent avec précaution la porte de la terrasse et la refermèrent derrière eux. Quand ils furent seuls sous les grands arbres de la ferme, Clerps s'arrêta et, croisant sur sa poitrine ses deux bras armés de pistolets, il dit: Mon cher Gabriel, il faut que je parle un instant, sans rien dire, je ne sais pas où commencer. Regardons-nous. Après une longue pause, Clerps dit: Résumons cette conversation muette. Eva est une femme inexplicable, c'est un fruit de l'Inde. Il est inutile d'aller chercher son chien à la ferme, il n'y est pas. J'ai saisi la première occasion de m'échapper. J'aime mieux un tête-à-tête avec le tigre qui a dévoré le mari qu'avec la femme qui le pleure, c'est moins dangereux. Enfin, pour finir mon résumé, allons voir le gibier que j'ai abattu vers le lac. Homme ou tigre, nous l'enterrerons dans quelque grotte pour ne pas effrayer Eva. Un moment, dit Gabriel, nous sommes censés aller à la ferme et nous avons du temps. Claire, cette femme aimait son mari. Oui, je le crois, Gabriel. Et quel mari, un vieux Indien de 35 ans, laid comme une statue de pagode. C'est peut-être nous qui sommes laids. Allons donc, Claire, c'est impossible. Elle joue un jeu indien antérieur aux échecs, un jeu que nous ne connaissons pas. Elle vise à partager l'héritage du mort. Non, non, Gabriel, tu la calomnies. Elle aimait son mari, et j'en doutais du vivant du madbab. Maintenant, je n'en doute plus. Mais faut que m'importe cela? Le monde est plein de jeunes veuves qui ont aimé plusieurs maris. Au contraire, l'amour qu'une femme a donné au premier garantit celui qu'elle donnera au second. Je voudrais bien que ma future Herminia fût une veuve de cette espèce. Hélas, elle a 15 ans. Oh, il est impossible de parler raison avec vous, Cléops. Venez, venez, grand sage, allons au lac, Eva nous attend. Les deux amis arrivèrent bientôt à ces ténébreux massifs de verdure où deux fois une tête humaine s'était levée dans la nuit. Ils remarquèrent une large trouée que le chien avait faite violemment pour passer de l'autre côté. Passant eux-mêmes par la même brèche, ils touchèrent bientôt le sol qui gardait encore les vestiges de l'apparition. De larges traces de pieds humains se reconnaissaient sur le gazon, courbés à des intervalles de pas gigantesques. Krebs et Gabriel fouillèrent la haie naturelle du lac, les labyrinthes de verdure, les gerbes touffues de bambou, les échevaux des lianes, les grottes couronnées de mousses éplorées. Ils ne trouvèrent aucun cadavre. De temps en temps, Krebs disait: Oh, je suis sûr de mon coup, je ne crois pas aux fantômes, ils n'existent pas dans l'Inde. J'ai tué quelque chose qui vivait. Il me faut un cadavre. Ce lac me doit un cadavre, il me le donnera demain. Après 1 heure de recherches inutiles, Gabriel entraîna Krebs à l'habitation. La porte s'ouvrit au premier coup frappé. Eva vint recevoir les jeunes gens à la porte de sa chambre et les fit asseoir sur un divan. Krebs prit la parole. Madame, dit-il, nous avons cherché Soura dans tous les environs. Nous avons appelé à fatiguer les échos, ce pauvre chien. Eva poussa un cri terrible et se dressa convulsivement comme si un serpent l'eût piqué aux pieds. Les jeunes gens se levèrent aussi. Gabriel, pâle comme un agonisant, Cléops avec la nonchalance d'un stoïcien. Il n'y a pas d'acier mieux aiguisé que le cri d'une femme dans une nuit de terreur. Eva montrait du doigt de larges et fraîches gouttes de sang sur les habits blancs de Cléops et de Gabriel. Elle fit un effort et s'écria « Mais c'est du sang humain, horreur, mais qui avez-vous assassiné ?» Les jeunes gens, sortant des ténèbres de la nuit et éblouis par l'éclat de la lampe, n'avaient pas pu remarquer encore cette horrible tâche. Au cri d'Eva, Talaï Péri entra et s'écria avec un accent de désespoir incompréhensible « Mais d'où vient ce sang? D'où vient-il, dites ?» Cléops, imperturbable, répondit « Je crois deviner, c'est bien simple. J'ai tiré le tir, je l'ai blessé. Nous l'avons cherché, le croyant mort, et nous avons ramassé dans les broussailles le sang de l'animal blessé. » Gabriel répétait automatiquement avec le geste chaque mot de Cléops. Une éclaircie de satisfaction parut sur le visage de Talaï Péri. Eva s'était assise et elle semblait rassurée par le ton calme et naturel de Cléops. « Oh, c'est horrible !» dit-elle. « Je crois retomber dans ce songe fatal de toutes mes nuits. Il se passe en moi quelque chose d'affreux et d'inexplicable. J'ai peur. Ôtez ce sang de mes yeux. » Cléops et Gabriel se retirèrent pour entrer dans leur appartement. Quand ils se furent revêtus d'autres habits, ils envoyèrent un domestique prendre les ordres de madame. Talaï Péri monta lui-même et leur dit « Bah, voici le jour où on voit clair dans la campagne. Nous allons accompagner madame aux rives du lac. Il n'y a plus de danger à présent. » « Ne quittons pas nos armes, cependant, Gabriel, dit Cléops. Le soleil n'est pas levé. » Ils trouvèrent Eva dans le vestibule. Elle secoua la tête et dit « Enfin, elle est finie cette horrible nuit !» Talaï Péri marchait le premier, Cléops donnait le bras à Eva, Gabriel fermait la marche. « Oui, c'est un tigre !» s'écria Talaï Péri en bondissant comme un écolier. Cléops rejeta brutalement Eva en arrière pour la recouvrir de son corps et il arma ses pistolets. Gabriel fit un saut comme une arche de pont et tomba à côté de son ami. Talaï Péri poussa un éclat de rire en voyant cette fausse alerte qu'il avait excitée sans le vouloir et montrant la trouée profonde que le chien avait faite dans le massif de verdure, il dit « Mais voyez, le tigre a passé par là. En nous courbant un peu, nous passerons comme lui. » Et tout près d'ici, nous trouverons les traces du sang de l'animal que Sir Edward a blessé. En effet, sur une assez longue étendue de terrain, la verdure gardait des vestiges incontestables d'apparence et qui prouvaient que Cléops avait dit la vérité. Eva serra les mains des deux jeunes gens et reprit avec eux le sentier de l'habitation. « Oui, disait-elle. « Je resterai dans cette maison, malgré toutes les angoisses auxquelles je m'expose. Ailleurs, je le sens, je mourrai d'ennui. »« Madame, dit Gabriel, nous ferons bonne garde. »« Mais, dit Eva en souriant, est-ce que vous restez ici éternellement ?»« Oh, si vous l'exigez, madame, dit Cléops, vous y resterons davantage. »« Toujours le même, Sir Edward. » « Et ce pauvre Soura, qu'est-il devenu ?»« Soura, mais Soura, oh, Soura est perdu sans retour. Ce bon chien aimait tant mon mari. Mais ces infâmes tigres ne laisseront pas un repos un seul jour. »« Il faut demander à un régiment de cipayes, à Lord Cornwallis, dit Cléops, et ravager tous les clubs de tigres, la baïonnette au bout du fusil. »« Messieurs, dit Eva, avec un accent de haine que la soif de la vengeance inspirerait contre des hommes et non contre des animaux, messieurs. Si j'avais encore ma fortune, oh, j'en donnerais de grand cœur la moitié à celui qui m'apporterait 12 tigres tués dans une nuit. Mais Lord Cornwallis, dit Clarps, vous prêtera volontiers. Non, non, je ne voudrais pas employer une armée. Ce serait leur faire trop d'honneur. Je voudrais qu'un homme seul fît cela pour moi, en prononçant mon nom, et qu'il me les apportât pour les fouler aux pieds, tous humiliés, cousus l'un à l'autre, 12 tigres orgueilleux, déguisés en tapis. Ah, je serais heureuse et triomphante de penser qu'il y en a un dans le nombre qui était à la chasse de Lushmi, et que j'écrase sa tête sous ma sandale de femme à chaque pas, à toute heure du jour. Oui, je comprends cela, madame, dit Cléops, c'est bien anglais. Vous donneriez la moitié de votre fortune, dit Gabriel, c'est encourageant. Mais si je l'avais encore, dit Eva. Ben, il vous reste l'enjeu que Sir Edward se mettait à côté du Pérou hier à la partie d'échecs. Oui, dit Eva, je sens, moi qui ne veux aimer personne, je sens qu'à une époque indéterminée, je pourrais donner mon affection à l'intrépide exécuteur de mes volontés. J'ai mon caractère à moi. J'ai des idées qui m'appartiennent. Je ne sais pas comment on vit en Europe. Je ne connais que les usages de ma nature. Oui, si un homme obéissait à ce point, je jure que je le prendrais pour mari. Mais, ajouta-t-elle en souriant, je demande une chose impossible. C'est un caprice de vengeance. Je suis folle en disant cela. Excusez-moi. Madame, dit Gabriel avec une voix tremblante, vous avez eu une nuit bien agitée. Suivez un conseil que tous vos amis vous donneraient. Allez prendre un peu de repos. Les heures matinales apportent avec elles un sommeil bien doux. Le conseil est bon, et je vous le donne aussi à vous et à Sir Edward. Adieu, messieurs. Nous nous reverrons à déjeuner. Lorsque les deux amis se trouvèrent seuls, Gabriel dit à Clerps, « Mon cher, séparons-nous pour quelques heures. J'expire d'insomnie. À mon réveil, je t'annonce que je serai fou. » Chapitre 8 12 tigres pour une femme. « Mon ami, dit Clerps à l'oreille de Gabriel, encore endormi, tout le monde est debout depuis une heure dans la maison. Ouvrez les yeux. J'ai mon journal du matin à vous lire. Il est intéressant. » Le jeune homme dormait de ce sommeil léger qu'interrompt la chute d'un atome. Il ouvrit soudainement ses yeux pour voir et ses oreilles pour écouter. Ben, « Vous m'avez promis d'être fou à votre réveil, dit Clerps. Je viens m'assurer d'abord si vous tenez votre parole. Vous êtes fou, très bien. » Bon, maintenant, je vous annoncerai que j'ai rencontré ce matin, il y a 4 heures, le Brahman Siali. Quel Brahman ? Oh, vous n'êtes pas encore bien éveillé. Comment, vous avez oublié le Brahman qui nous endormit un soir avec les 10 incarnations de Vishnu et qui demeure de l'autre côté de cette montagne, votre voisin ? Ah oui, ce misérable qui a déposé contre nous dans le procès, lui-même. Il est tombé dans le chemin de l'habitation, celui qui mène à Madras, au moment où je fumais mon cheroot en me promenant. Il voulait m'éviter, mais je me suis posé en dieu terme sur la ligne de son cheval. Je lui ai demandé s'il allait faire quelques dépositions à Madras pour donner d'autres Européens au bourreau. Le pauvre homme, tremblant de peur comme un brahman lettré, m'a dit qu'il allait chercher le docteur Fitian, le premier médecin de Madras, un dévoué philanthrope qui fait des visites dans la campagne à 15 livres d'honoraires par mile. Il n'y a qu'un millionnaire qui puisse se faire guérir par le docteur Fitian. Ensuite, j'ai vu que le peureux brahman éprouvait un vif regret de m'avoir dit cela, et il m'a fait promettre de n'en parler à personne. Je lui ai promis, aussi je n'en parlerai qu'à vous, parce que vous, vous êtes moi. Il faut tenir ses promesses, même avec les brahmanes. Gabriel, que dites-vous? Il m'a découverte. Je dis qu'il y a un malade à la cabane de Siali. Un millionnaire dans une cabane? Oui, Edouard, cela paraît suspect. Gabriel, cela est clair. La chose que j'ai blessée la nuit dernière d'un coup de pistolet. Ah, est un millionnaire. Oui, vous y êtes, Gabriel. Un millionnaire qui bravait les tonnerres, les ténèbres, les tigres, et moi, c'est incroyable. Mais nous ne sommes pas au de vous. Écoutez la fin, Gabriel. En quittant le Brahman, j'ai suivi le petit chemin qui traverse la montagne, et je me suis avancé de l'autre côté, assez près de la maison de Siali, pour examiner la physionomie des lieux. Je me suis permis qu'un espionnage décent. Bien savez-vous qui j'ai vu tranquillement assis devant la porte de la cabane? Devinez. Soura, Soura, notre chien de garde. Ce chien indien, ne voyant plus aucun de ses compatriotes à l'habitation du lac, aurait-il donné sa démission et passé au Brahman? Le malade est-il un des amis de Soura? Le Brahman a-t-il le secret de charmer les chiens comme les serpents? Ah, toutes ces questions que je me suis posées, je n'ai pu répondre rien de satisfaisant. Mais ce chien m'a bien étonné. Si Gourab et Mipour n'avaient pas été arrêtés, ainsi qu'on nous l'a dit, je croirais que ma balle a touché un de ces coquins et que le chien qui ignore leur histoire a suivi par attachement national un Indien blessé. Quoi qu'il en soit, croyez bien qu'il y a un mystère compliqué au fond d'une découverte si simple. Oui, Sir Edward, je pense comme vous, mais suivant notre principe. Ne disons rien à Eva, rien à Eva. Gardons les mystères pour nous. Bien entendu, Gabriel. La nuit dernière, de l'avoir singulièrement agité, l'avez-vous vu ce matin? Au seul instant, à son balcon. Elle avait sur son visage une pâleur adorable. Je l'ai saluée et je lui ai montré une lettre que je recevais de Trinquemar. Mon futur beau-père est furieux contre moi. Ces consuls ont une existence mathématique. Ce beau-père voudrait que j'attendisse l'heure de l'hyménée, comme il dit, au pied de sa fille. Il m'annonce que Trinquemar jase beaucoup sur mon compte à propos d'une belle veuve et que mon honneur doit me conseiller de mettre fin au commérage de Trinquemar. Il se plaint surtout des méchancetés de la société danoise. Les consuls s'ennuient à la mort dans leur résidence et ils s'accrochent à tout ce qui peut les secouer un instant. Nous avons des affaires plus sérieuses ici, n'est-ce pas, Gabriel? Voyons, parlons de vous maintenant. Je m'aperçois que votre tour de parler est venu. Allez, parlez. Mais il me faut 12 tigres à tout prix, Sir Edward. Ah, vous voici à l'article de la folie. 12 tigres, je sais, pour Eva. Une brochette de tigres, oh, c'est embarrassant. Oui, c'est même impossible, mais il faut les trouver. Il nous faut 12 000 francs. Les avez-vous, Gabriel? Oh, pas du tout. Il ne faut pas acheter 12 tigres. Il faut que je les tue, moi, en plein champ, et que je vienne les déposer comme un tapis de Perse en 12 compartiments au pied des Évars. 12 tigres, quel cadeau de noces! Le reste sont les mœurs du pays. À Paris, on vous demanderait un épagnol, une perruche, un serin. Et ici, la fantaisie a d'autres prétentions. Fausta, la maîtresse de l'empereur Gallus, fut plus exigeante qu'Eva. Elle échangeait une caresse contre un lion. Au bout de 6 mois, le préfet d'Afrique épuisa l'Atlas et barqua. Si cette intrigue impériale eût duré 6 ans, les lions passaient à l'état de sphinx, s'il n'y en avait plus. Bon, revenons à nos boutons. Quel est votre plan de coup de filet pour ces 12 tigres? Mais ce n'est pas sur moi que je compte, c'est sur vous, Sir Edward. Vous êtes du peuple qui invente, inventez. Vous êtes anglais, c'est votre métier. Il me faut un piège à tigre, une grande souricière pour des chats géants. Je vous mets sur la voie, mais il ne la faut tout de suite, mon bon Klebs. Je suis arrivé à la furie de l'amour. Oh, la dernière nuit m'a brûlé vif. Quelle femme! Si elle me demandait le monde, je m'embarquerais pour le lui rapporter en 1000 voyages par livraison. Douche-tigre, ce n'est rien. D'accord, mais encore ce rien est difficile à cueillir. Ah, si mon oncle Sarinboud était ici. Quel ingénieur! Et où est-il, votre sœur Edmund? À Manchester. Il a inventé le silk embroidery. Mais s'il est à Manchester, que m'importe ce qu'il a inventé? Je ne compte que sur son neveu, Sir Edward. Voulez-vous, Gabriel, que je lui écrive pour m'inventer une souricière de tigre? Alors donc, prenez pitié de moi, ne plaisantez pas. Est-ce ma faute si dans cette vie il y a toujours un côté risible, pas des choses sérieuses? Est-ce ma faute si je suis amoureux d'une femme indienne qui a perdu son mari bien-aimé dans 12 gueules de tigre? Il faut subir ma destinée et ne pas rire de mon étrange position. Gabriel, oh, je crois avoir trouvé votre... Attendez. Laissez-moi faire mon plan au crayon. Ah, si mon cher oncle Sir Edmund... Ah, bah, un moment, vous aurez vos tigres. 12 et le 13e par-dessus le marché, si vous le voulez. Oui, c'est cela. Je suis le digne neveu de Sir Edmund. Je n'ai pas dégénéré. Voilà une invention qui sera brevetée pour la sûreté du chasseur. Patent safety. Voyez, Gabriel, c'est tout simplement l'inverse de la ménagerie. Ce sera l'homme qui sera en cage et le tigre viendra le regarder. Une bonne cage de fer de 6 pieds de haut, armée en haut de baïonnettes comme un hérisson. 12 pieds de circonférence pour le consolider sur la base. Je connais à Madras un ouvrier chinois qui vous baglera cette cage en 6 jours. Il a des tiges de fer en nombre et toutes prêtes pour les kiosques métalliques fortes à la mode à Chultry. Vous faites porter votre cage sur un chariot vulgaire de l'autre côté du lac, en plein désert, à 19 miles de l'habitation d'Eva, pendant le jour. Vous l'assujettissez fortement sur sa base. Je serai avec vous et je vous aiderai. Nous amènerons des bœufs qui sont liés par de bonnes cordes à des troncs d'arbres touchant à la cage. Et au tomber de la nuit, vous abattrez avec 2 balles ces bœufs. L'odeur du sang et les mugissements d'agonie de ces animaux attireront à coup sûr plus de tigres qu'on en demandera. Vous aurez un arsenal de fusils et vous choisirez les plus beaux tigres. N'oubliez pas les noirs. Certes, il faut vous attendre à un concert formidable qui déchirera vos oreilles, à de terribles assauts, à des scènes inouïes. Mais je ferai donner à votre cage des soins si minutieux que vous pourrez dire au tigre en montrant la pointe de vos baïonnettes, « Vous n'irez pas plus loin. Je vais vous esquisser un dessin représentant cette chasse. Vous copierez en action mon dessin. » « Sir Edward, » dit Gabriel, les yeux fixés sur le plan crayonné par son ami, « je ne sais si vous parlez sérieusement, mais je crois que votre idée mérite d'être prise en considération. Vraiment, je ne vois pas de graves objections à faire à ce plan. Par malheur, vous ne pouvez pas me seconder. Il faut que je jure sur l'honneur devant Eva que j'ai tué seul mes 12 tigres, seul. » Eh bien, vous serez seul. Je vous aiderai dans les préparatifs et avant le coucher du soleil, je rentrerai à l'habitation. Si Eva me demande vos nouvelles, je lui dirai que vous serez occupé toute la nuit à tuer des tigres et que ne s'inquiète pas pour si peu de choses. Le lendemain, j'irai vous aider à transporter ici votre gibier. Et si Eva vous donne seulement un sourire par tigre, vous serez payé. « Mais je l'épouserai, Claire, je l'épouserai. Quelle femme résisterait à une telle preuve d'amour? J'épouserai Eva. Toutes les félicités du ciel et de la terre sont dans ces 2 mots. Claire, une pensée vient de me tomber sur le front comme un coup de tonnerre. Savez-vous qu'il me faut beaucoup d'argent pour ma chasse en cage? Autre, c'est prévu déjà. Je vais à Madras, je verrai Lord Cornwallis et je lui rappellerai qu'il nous a promis de nous rendre tout service que nous lui demanderons. Or, je le prierai de me donner un ordre pour faire confectionner aux frais du gouvernement dans 48 heures une machine scientifique dont le plan a été envoyé par la Société Royale de Londres et qui est destinée à l'exploitation agricole des Landes Chultry. Je demanderai de plus un faisceau de fusils et deux bœufs sous le prétexte de fonder une colonie devant la cataracte des Lorrains. Lord Cornwallis sera enchanté de s'acquitter d'une dette à si bon marché. Oh, Sir Edward, vous êtes adorable. Oh, ne m'adorez pas encore, attendez la réussite. Je réussirai, mon ami, c'est infaillible. Voilà justement comment on arrive au grand résultat, en tâtonnant sur une voie de plaisanterie. Une bagatelle, souvent, est la porte de toute idée sublime. Christophe Colomb à table cherchait un plat favori caché derrière une jatte de lait. Ses convives nièrent l'existence du plat. Il retira la jatte et le leur montra. Cela le fit tomber en rêverie et quelques années après, il découvrait l'Amérique derrière l'océan. Claire, je suis exigeant. Allez, il faut partir pour Madras. Dans 1 heure. Oh, mon cher Édouard, que de peine je vous donne pour le caprice d'une femme. Ah, nous sommes de bien grands fous, vraiment. Une femme a une fantaisie, elle trouvera 100 amoureux pour aller lui ramasser son idée folle à 1 000 lieues et la lui rapporter. Je pense à un amoureux dont j'ai oublié le nom, qui était plus infortuné que moi. Celui-là me console. Il aimait une Eva qui lui demandait chaque jour quelque chose d'extravagant. Un soir, elle se mit à regarder une étoile avec des yeux de convoitise. L'amoureux se vit perdu et il ne se sauva qu'avec ce quatrain. La nuit, quand sous un ciel sans voile, l'heure d'amour vient à sonner, ne regardez pas cette étoile, je ne puis pas vous la donner. Ah oui, je conviens, Gabriel, qu'Eva est plus raisonnable. Aussi nous la contenterons. Mais il ne faut jamais qu'elle sache le procédé ingénieux que nous avons employé. Oh non, jamais, jamais. Il faut que rien dans son idée ne rapetisse la grandeur et le péril du dénouement, afin que vous en recueilliez tout le bénéfice. Oui, c'est cela. Tout est donc bien arrêté, Gabriel. Mais tout, Edouard. Oh, je crains que ce Chinois qui fait des kiosques de fer ne soit parti. Un Chinois partir? Mais dans 50 ans, je le trouverai encore empaillé au China Bazaar sous son parasol. Et Lord Cornwallis, si, Gabriel, point de si, de doute avec un Anglais. Pardon, Sir Edward, c'est que ma vie est entre vos mains. Je vous la rendrai, comptez sur moi. Il y eut encore quelques paroles insignifiantes échangées entre les deux amis. Puis Sir Edward fit ses préparatifs de départ. On trouva facilement un prétexte pour justifier l'absence de Krebs. Il allait passer quelques jours à Madras, disait Gabriel, pour les affaires de son mariage. Tant mieux, avait dit Eva. Ce jeune homme, monsieur Gabriel, vous rendra léger comme lui. Nous causerons au moins 10 jours de choses sérieuses. Vous saurez que personne ne m'a encore apporté mes 12 tigres. Ah, madame, avait répondu Gabriel, on est bien peu galant dans l'Inde. Moi-même, taisez-vous, enfant. Voyez comme il prend un air sérieux en disant cela. Mais je vous défends de faire une sottise. C'est que je vous connais. Je vous défends d'être fou. En disant cette phrase, Eva regardait Gabriel avec ce sourire provocateur qui annonce chez une femme quelque intention de nouer une intrigue par amour ou par ennui. Gabriel se tenait dans une extrême réserve, comme un homme qui, voulant débuter par un coup d'éclat, ne veut pas compromettre son plan et son avenir avec des galanteries banales dont se sert le genre humain des amoureux. Ainsi, les entretiens de Gabriel et d'Eva ne se renouvelèrent pendant 2 jours qu'à de rares intervalles, et ils ne furent remarquables que par leur brièveté. Vers la fin du 2e jour, Gabriel reçut 2 lettres de Madras. Une de ces lettres était confidentielle, mais il lui était recommandé de montrer l'autre qui expliquait sa promenade à Madras. Voici ces 2 lettres. Madras, juillet 1800. Mon cher Gabriel, Lord Cornwallis a été parfait. Je lui ai expliqué mes plans d'agriculteur et de colonisateur d'un air grave que j'avais emprunté à un savant de mes amis et que je lui ai rendu en sortant. Cette dette me pesait. Le gouverneur m'a donné tout pouvoir sur papier officiel. J'ai couru chez mon chinois et je lui ai montré l'ordre de son excellence et mon plan. Le chinois n'a jeté sur mon plan qu'un œil oblique et il m'a dit « i ». Cette « i » signifiait qu'il comprenait tout le mécanisme du travail demandé avec ses détails et accessoires et qu'il serait prêt dans 2 jours. J'ai fait une visite de politesse à l'attorney général. Il m'a reçu avec une froideur qui me dispensera d'une seconde visite. Cet homme mourra dans la pénitence finale. L'Evening Chronicle de ce jour renferme le paragraphe suivant sous la rubrique « Latest Intelligence ». Le savant économiste Sir Edward Clapps va faire des essais agricoles dans les terres incultes au nord de Madras. Le gouvernement a mis à sa disposition tous les instruments nécessaires pour favoriser cette vaste entreprise. C'est ainsi que son excellence répond aux aveugles écrivains de la métropole. Ah, toutes les choses de ce pauvre monde vont comme cela, mon cher Gabriel. Demain, à 4 heures du soir, vous me rencontrerez au nord du lac, avec tout mon attirail de chasse. J'élèverai un drapeau rouge sur le plus haut des palmiers du désert. Je serai à 10 pas de ce drapeau. Votre cheval me servira pour mon retour. Adieu, à demain. Edward Clapps. Autre lettre, Madras, juillet 1800. Mon cher ami, je vous écris in greatest test pour vous annoncer que mon futur beau-père est toujours furieux contre moi. Il prétend que le mois de juillet est commencé, ce qui est incontestable, puisque le mois de juin est fini depuis 15 jours. Je n'ai rien à répondre à cela, aussi je ne réponds pas. Mettez-moi au plus bas degré de l'hôtel, vous adorerez la reine de l'Inde. Je vous serrerai les mains au premier jour. Adieu, Edward. Postscriptum. J'avais oublié de vous dire que j'ai reçu à Madras une lettre de ce beau-père furieux. Gabriel montra cette dernière lettre à Eva, qui la lut en souriant et dit avec mélancolie « Voilà comment les hommes traitent le mariage. Oh, je ne suis pas dupe, moi, de Sir Edward. Il a une maîtresse à Madras et il ne se mariera pas. » L'arrivée de 2 importuns suspendit cette conversation. Les importuns arrivent toujours dans ces moments. Le soir, après le repas, Gabriel, en saluant Eva qui se retirait, lui dit « Oui, vous m'avez donné une idée, madame. Oui, je crois que Sir Edward a une maîtresse à Madras. Je veux le surprendre et lui faire un sermon. Demain, je tombe devant lui à Madras et je l'épouvante avec ma vertu. Et nous reviendrez-vous bientôt ?»« Après-demain, madame, je suppose qu'on peut vivre 24 heures loin d'ici. » Je veux l'essayer. Eva présenta sa main à Gabriel et laissa rayonner sur sa figure un sourire d'une expression toute nouvelle pour lui. Gabriel s'embrasa de ce premier rayon de bonheur. Il crut voir luire l'aube de l'amour sur le front céleste d'Eva. Il sortit sur la terrasse. et jeta un rapide coup d'œil à l'horizon lointain du lac, comme s'il cherchait déjà sur les cimes confuses des arbres le drapeau rouge de Sir Edward.